So, buongiorno a tutti.
Good morning, everybody. My name sounds Italian, but I will speak French because I'm from Belgium.
Alors, dans les télécommunications d'urgence, il y a trois types de situations.
Nelle situazioni di urgenza, di emergenza.
Donc, on parle d'un domaine qui est relativement large. Notre association travaille sur un des trois secteurs. Ici, nous avons le citoyen qui est en situation d'urgence et qui doit communiquer auprès des autorités. Donc, c'est ce que j'appelle le lien du 112. Nous avons une deuxième situation qui permet, en termes de télécommunication, de faire en sorte que les autorités se parlent entre elles lorsque c'est nécessaire sur un lieu où, par exemple, un accident sur l'autoroute permet de faire intervenir plusieurs corps d'urgence avec la police, l'urgence sanitaire et les pompiers. Donc ici, vous avez un autre type de télécommunication avec ses propres standards, ses propres normes et ses propres protocoles. Donc on a ici, on retrouve les standards tels que TETRA et TETRAPOL. Et le troisième cas de télécommunication, c'est entre les autorités vers le citoyen lorsque on fait face à de grandes catastrophes qui requièrent un message de la part des autorités auprès du citoyen, avec des systèmes aussi propres tels que les sirènes, les radios, les messages GSM groupés ou alors la télévision. Alors, parlons un petit peu des touristes en Europe, parce qu'il faut bien comprendre que le 112, il y a quelques années, chaque État membre disait, ce Morandini, c'est très bien, vous avez un beau projet, mais chez nous, on a un 118 qui fonctionne bien, on a un 101 qui fonctionne bien, donc on n'a pas besoin du 112. Maintenant, le 112, il prend tout son sens et sa signification dans la mobilité des Européens. Et les statistiques que vous allez voir ici comprennent l'Union européenne des États membres, c'est les 15 États membres, pas les 25, parce que nous n'avons pas encore à ce jour de statistiques officielles concernant les 10 nouveaux pays. Donc, on a, et c'est une source de la Commission européenne de 1997, donc relativement vieille, mais c'est la seule officielle qu'on ait de la Commission européenne. Nous avons 85 millions d'Européens qui voyagent intra-Union européenne chaque année. Alors, d'autres voyagent pour des raisons d'affaires, par exemple, 10 millions d'hommes d'affaires voyagent, et ces 10 millions voyagent plusieurs fois par an intra-Union européenne. Et on estime, donc toujours pour l'Europe des 15, à 5 millions de gens qui vivent dans les zones frontalières et qui vont dans le pays voisin pour des raisons de plaisir, donc de loisirs ou de travail, où ils vont faire les courses. Bon. Donc on a chaque année 100 millions de voyageurs qui peuvent faire face à une situation d'urgence. Et c'est ici donc où on va installer un standard qui est le premier facteur qui va faire en sorte qu'une vie peut être sauvée ou des dommages peuvent être minimisés, réduits, pas minimisés. C'est un 112, un numéro unique, parce que je ne vois pas l'autorité qui va dire aux citoyens européens « Je vous invite à retenir tous les numéros d'urgence » propre aux pompiers, à l'urgence sanitaire et à la police, pour chacun des pays. Vous imaginez, il faudrait créer, et c'est peut-être un business à faire, un dictionnaire des numéros d'urgence en Europe. Alors, aussi, un facteur qui est important, c'est le sentiment d'insécurité que connaît le voyageur dans ses déplacements en Europe. Et c'est pour ce point aussi qu'il est important d'avoir des standards, des protocoles communs pour tous. Donc, on a 34% des Européens qui ne se sentent pas insécurisés lorsqu'ils voyagent dans l'Union européenne. Donc, ça veut dire que 2/3 le sentent. Pour diverses raisons, ils ne connaissent pas les risques propres au pays, propres à l'endroit auquel ils se rendent. Ils ne parlent pas la langue et le problème ne fait qu'augmenter avec l'arrivée de 10 autres pays dans l'Union européenne. Ils pensent et parfois à tort, parfois à raison, que les services d'urgence sont moins bien organisés, dépendamment du pays, et aussi la signalétique est différente. On a plusieurs directives qui ne vous concernent peut-être pas directement, mais la directive Seveso, la directive sur la protection en radiotélécommunication, et qui permettent de standardiser, par exemple, un signal d'alarme quand on doit aller à l'extérieur ou quand on doit rentrer à l'intérieur d'une maison. On voit que dans ces trois directives, les signaux sont différents pour les mêmes types d'alarmes. Donc vous imaginez, c'est très bien au niveau national, vous connaissez le signal qui va vous faire rentrer dans votre maison, mais s'il est différent en France lorsque vous êtes en déplacement, c'est un petit peu, ce sont des efforts gâchés pour tout un travail qui a été préparé par la Commission européenne, qui est un bon travail en termes de base légale, mais bon, il faut une harmonisation qui aille un peu plus loin. Alors, pour vous donner une idée, toujours dans l'Europe des 15, on a entre 80 et 100 millions d'appels d'urgence chaque année, recensés parmi ceux-là, 40 au travers d'un téléphone portable. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que 3,5 millions d'entre eux reçoivent une mauvaise information sur la localisation de l'appelant. Donc, on perd du temps. On monopolise des unités qui pourraient servir plus vite sur d'autres lieux. Et 2,5 millions ne reçoivent aucune information sur la localisation. C'est-à-dire que on sait qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, mais on ne l'envoie pas parce qu'on ne sait pas où ça se trouve. Alors, ce point, comme tout sans doute ce que je suis en train d'expliquer, ce n'est pas une idée de quelques idéalistes isolés. Tous ces points sont réglementés, et celui-ci, au travers de la directive européenne sur le service universel, qui a dû être implémentée dans les législations nationales de chacun des États membres depuis le 25 juillet dernier. Donc ça va faire un an que les opérateurs télécoms, partout, ont l'obligation de router au travers d'un protocole et d'un système, les informations sur la localisation de l'appelant auprès des services d'urgence. Donc, maintenant, voyons l'approche du 112 sur un point de vue systémique. Il est évident que si je ne connais pas le numéro d'appel d'urgence propre à chaque pays, je ne vais pas pouvoir l'appeler. Or, c'est un droit fondamental parce que ça peut sauver ma vie. Donc, la connaissance du 112 est le premier élément. La moyenne européenne est d'un Européen sur 5. Évidemment, on doit pouvoir aussi lancer un appel, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas un portable, et j'entends que les opérateurs télécoms veulent abolir le système de cabine publique d'appel. Parce que ce n'est pas assez rentable. Aussi, les opérateurs télécoms vont vous dire « Ah, mais nous, on couvre 99% de la population. » Ce qui est certainement exact, mais selon certains types de statistiques. Entre autres, si vous êtes dans une région qui n'est pas couverte par le réseau, ben, je vous conseille de ne pas faire face à une urgence à ce moment-là, parce que vous n'aurez pas l'appel. Donc, une fois que l'appel doit être reçu, répondu. Ensuite, l'appel doit être traité. On verra peut-être par après. On fait face à différents scénarios en termes de traitement de l'appel ici en Europe. Soit le 112 peut être répondu et traité par un opérateur privé, comme c'est le cas en Angleterre et en Irlande. Donc c'est l'opérateur télécom qui traite l'appel et qui ensuite redispatche auprès du service approprié. Il peut être traité avec un autre statut, pas par l'opérateur télécom, mais par une autre société d'État, où le statut de l'opérateur qui va prendre l'appel sera un statut particulier, donc il ne sera pas de l'urgence sanitaire, il ne fera pas partie des pompiers ou il ne fera pas partie de la police, mais ce sera un statut particulier. Évidemment, ces opérateurs doivent suivre une formation qui leur permet d'optimiser le traitement de cet appel. Et le dernier exemple, qui est le plus, pour moi le plus efficace, mais certainement le plus difficile à mettre en place, surtout dans les pays comme l'Italie et la France, par exemple, mais l'Espagne est arrivée, c'est d'avoir des plateformes communes. C'est-à-dire que vous travaillez en face d'un pompier, vous travaillez en face de la garde financière, vous travaillez en face de la police, et tous ces gens travaillent à côté des opérateurs multilingues pour un traitement de l'appel dans un même endroit. Et pour revenir sur ce que disait le docteur Martinez, on a peut-être une situation qui est problématique en Italie et en France concernant le 112. Des efforts importants sont faits en France, où je vais vendredi à l'inauguration de la 7e plateforme 112 en France. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais au moins la volonté d'avancer est là, et c'est clair que le résultat n'arrivera pas demain, et qu'il faut un certain temps d'apprentissage avant d'avoir un mode opérationnel efficace. Donc ensuite, il faut envoyer le secours, et envoyer le secours, l'aide, c'est envoyer à une bonne adresse. Et au travers de la localisation qui est réglementée, on peut optimiser également l'envoi. Et puis on arrive sur le point d'urgence, et vous avez certains pays qui ont établi des critères de qualité. Aux Pays-Bas, en Angleterre et en Irlande, vous avez un temps d'intervention qui est réglementé. En Belgique, par exemple, le temps n'est pas réglementé dans les textes de loi. Donc, je trouve toujours un petit peu absurde d'obliger un opérateur télécom à router un appel dans la milliseconde auprès de l'appel d'urgence, auprès des services d'urgence, si l'ambulance ou les pompiers peuvent prendre, comme c'est le cas, on recense toute une série de cas au niveau européen, si l'ambulance peut prendre 1h30 pour arriver sur le lieu d'urgence. Et donc voilà, l'idéal serait d'établir des normes de qualité comme ils le font en Suède aussi, pour le temps total de prise en charge, donc de l'appel à la prise en charge finale. Bon, vous connaissez le principe de la Golden Hour. La gravité des blessures encourues augmente avec le temps d'intervention. Et pour chaque type de pathologie, il y a un temps d'intervention qui est conseillé, sachant toujours que c'est le plus bref, le mieux. Mais pour les pompiers, si vous arrivez 5 minutes après le début de l'incendie, vous avez des chances de ne pas avoir un sinistre total, plutôt que si vous arrivez 30 minutes après. Et dans le cas, par exemple, d'un carjacking, auquel fait face de plus en plus l'Europe chaque jour, les systèmes de localisation permettent d'avoir une action efficace. On peut retrouver une voiture si la demande est traitée dans les 5 minutes. Certains appels de la police, peut-être en Italie aussi, mais en Belgique, font arriver les policiers le lendemain de la catastrophe. Donc je vous parlais des quelques pays qui ont quelques normes en termes de temps d'intervention. Donc la problématique est compliquée. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un sujet vertical. Dans la composante 112, on a deux sous-composantes. La première est télécom. Et télécom est réglementée par la Commission européenne. Donc les États membres n'ont, entre guillemets, rien à dire. Et l'autre partie, c'est la protection civile, qui, elle, fait partie d'une compétence nationale. Et c'est là où le bas blesse, où nous n'avons pas à avoir un discours commun pour toute l'Europe. Il n'y a pas de porte-parole européen en termes de protection civile. Il n'y a pas un monde de la protection civile qui vous représente tous les secteurs d'urgence et qui dit, voilà, nous, protection civile européenne, on veut tel standard. À ce moment-là, tout ce qui est parti privé, tout ce qui est représentant de l'industrie, tous ces gens vont pouvoir développer des solutions qui vont vous permettre d'effectuer un service plus efficace, plus rapide. Et tant que nous n'avons pas ce type de normes, on va avoir d'un côté les services d'urgence qui vont établir leur propre agenda en disant voilà, nous on a besoin de cela au niveau local, sans se soucier de l'interopérabilité qui n'aura pas lieu parce qu'ils achètent une technologie Ericsson au niveau du 118 Florence et que le 112 Florence va acheter une technologie canadienne ou américaine qui ne permettront pas l'interopérabilité. Donc il y a un gaspillage d'argent là-dedans qui est énorme. Et j'ai envie de dire que à bas le corporatisme, vous avez un intérêt qui est celui du patient qui est pris en charge. Et je trouve dommage d'avoir une guerre qui persiste année après année entre différents services. On a eu le cas en Belgique, où le docteur Botson, qui va parler après moi, parlera brièvement d'expérience belge, la guerre entre les rouges et les blancs, l'hermétisme de certains corps d'intervention à travailler avec d'autres. Je crois que il y a deux semaines, la Belgique vient d'accepter, sous décision des conseils des ministres, la fusion des numéros existants au niveau national vers le 112. Je vous assure que moi-même, je n'y croyais pas. Mais c'est la bonne solution, parce que c'est la solution qui va aider le citoyen. Donc d'autres acteurs que les organisations politiques sont intéressés dans le 112. Donc évidemment, j'en parle, les acteurs privés qui ont développé des solutions. Et comprenons bien aussi les conditions d'existence de ces gens qui doivent survivre et qui, sachant qu'ils vont vous vendre une technologie qui n'est pas compatible avec d'autres, ben, ils vont vous la vendre parce qu'ils doivent survivre. Donc, les utilisateurs professionnels dont vous faites partie, et vous avez en main un élément clé de la réponse du 112, parce qu'on vous a donné, comme je reprends l'exemple du docteur Botson hier, hier vous rouliez à vélo pour aller au travail, ça vous prenait 2 heures pour pédaler et arriver sur votre lieu de travail. Aujourd'hui, on vous offre une Ferrari. Cette Ferrari, c'est le 112. Mais si vous n'avez pas la capacité de conduire cette Ferrari, vous l'utiliserez mal et vous direz « oui, mais c'était mieux avant ». Non, il faut apprendre à travailler sur l'élément essentiel qu'est le 112. Et alors, donc l'utilisateur final est aussi impliqué, donc vous à titre personnel, à titre d'amis, de parents, vous avez un intérêt dans une bonne implémentation du 112. Vous êtes tous parents. Le dernier cas qu'on a recensé aux Pays-Bas est une petite fille qui a 8 ans, qui fait une balade à vélo avec son papa, qui fait un arrêt cardiaque. Il se situe entre deux villages. Et la petite fille a 8 ans et a le réflexe, parce qu'il y a une bonne campagne d'information sur le 112, a le réflexe de composer le 112. Donc elle tombe sur un opérateur qui lui dit « Ok, où es-tu ?» Et elle est perdue, elle ne sait pas expliquer où elle est. Donc l'aide n'arrive pas, elle perdra son papa. Et ce n'est pas un cas isolé quand ça vous arrive, parce que lorsque vous savez, ou que vous apprenez, parce que peu de gens sont au courant de ça, que la localisation est un point obligatoire, que ferait une maman qui a perdu son mari et qui a une fille de 8 ans qui est maintenant traitée psychologiquement? Je veux dire, il faut réagir, et on a au travers de notre association les associations de protection de consommateurs qui représentent l'utilisateur final. Donc, rapidement, le 112 est réglementé. Donc on parle du 112 fin des années 70 au niveau européen. Un premier projet est remis dans les années fin des années 80, et la première décision du Conseil arrive en 91. En 98, la directive sur le réseau ouvert permet un accès gratuit du 112. En 2000, les États membres disent que le 112 fonctionne. La réponse de l'Italie, c'est on a implémenté le 112, évidemment c'est un numéro historique. Et alors en 2002, on a, et ici il y a une erreur, c'est le 25 juillet 2003 et pas 2002, il y a donc une obligation, donc il y a une consolidation en fait de la directive avec deux nouveaux points qui sont la localisation de l'appelant et l'information du public. Donc il y a obligation des États membres à informer, chers citoyens italiens, quand vous êtes dans votre mobilité en Europe, si vous faites face à une urgence, retenez un seul numéro, le 112. Il fonctionne, il est effectif partout, avec une qualité de service qui diffère d'un État à l'autre. À Londres, on vous répond en 120 langues, avec une technologie de British Telecom, et vous êtes localisable par le service d'ambulance. Alors, la loi donc impose l'existence, même à côté d'autres numéros nationaux. On verra différents scénarios qu'on retrouve ici en Europe. Donc l'accès gratuit, je vous l'ai dit. Alors, la Commission européenne ne peut rien dire par rapport au 118. Elle ne peut rien dire par rapport au 115. Mais un point qui est très important, et il faut vraiment donner toute son attention, donc le 112 doit être répondu de manière appropriée, c'est relativement ouvert comme terme. Moi, en tant que citoyen lambda, je vous assure que j'ai une idée précise par rapport à la manière dont je le comprends. Il doit être répondu de manière appropriée, indépendamment de l'organisation nationale. Donc, peu importe si ce sont les carabinières qui gèrent le 112, peu importe si c'est l'opérateur télécom, mais en termes de résultats, il doit y avoir un résultat qui va devoir répondre à des critères qui sont de plus en plus précis. Et alors, en tenant compte de la possibilité technologique. Alors, que veut dire technologie? Ça veut dire la possibilité technologique. Est-ce que j'ai l'argent pour acheter une technologie de localisation ou de multilinguisme? Ou est-ce que la technologie existe? Donc, et la localisation, au travers d'une recommandation qui, suite à la directive 2003, a été communiquée par la Commission européenne. Donc, si techniquement possible, la localisation doit être transmise par l'opérateur télécom. Et je vous le disais, l'information sur le 112 auprès du citoyen. Maintenant, voyons quelques pays en Europe. Donc, tous ces pays, la Finlande, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Portugal, quelques parties de l'Espagne, l'Islande, ont implémenté le 112 comme numéro d'appel unique au niveau national. Donc ces gens ont travaillé ensemble et sont arrivés à une solution. On peut rajouter la Belgique, il y a 2 semaines, et l'Espagne. Alors, on a nos compatriotes anglais, qui ont un numéro unique, mais qui n'est pas le 112. Mais le 112 pointe sur le 999, qui est le numéro d'urgence locale. Et en Angleterre, vous avez une qualité assez haute du service 112. Et alors, d'autres pays, donc tous les autres, ont implémenté le 112 à côté de leurs numéros nationaux. Et pour certains, comme l'Italie, le 112 est un numéro historique qui est lié ici aux carabinieri. Bon, alors, je vais vous raconter un exemple qui va vous faire peut-être rire, parce que je pense que Bruxelles, le mot Bruxelles, le nom de cette ville prend une connotation de plus en plus péjorative, parce que c'est à Bruxelles où on prend les décisions. En général, les mauvaises nouvelles viennent toujours de Bruxelles. Bon, mais Bruxelles est quand même la capitale de mon pays, et la capitale de l'Europe. Alors, mettez-vous à la place de cette dame qui est anglaise, qui travaille au Parlement européen, qui est allemande, pardon. Elle parle allemand, elle parle anglais et elle parle français. Donc, 3 langues relativement répandues dans l'Union européenne. Et elle est en balade équestre, elle fait une balade à cheval à Bruxelles, et elle tombe. Donc, son cheval se retrouve sur l'autoroute, et elle appelle le 112. Mais à l'endroit où elle se trouve, l'appel pointe sur un centre régional où l'on parle, comme vous le savez, le flamand. Nous avons 2 langues nationales, le flamand et le français. Et l'opérateur ne parle aucune, ou n'est obligé de parler aucune de ces 3 langues, parce qu'il est sous réglementation régionale qui n'impose pas à l'employé communal de traiter une autre langue que la langue régionale. Donc, je vous parlais d'1h30 tout à l'heure, grâce à un bon samaritain qui passait par là et qui, lui, parlait le flamand, l'ambulance n'a pris qu'1h30 pour arriver sur l'endroit. Donc, quand on dit une seule langue, donc certains pays, comme par exemple les îles Canaries, traitent les appels d'urgence en 5 langues. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas beaucoup 5 langues. Bien, c'est 80%, ça couvre 80% des besoins des touristes qui arrivent chaque année aux îles Canaries. Et ces gens-là ont compris que le 112 est un argument de vente au niveau touristique, et vous allez voir dans leur brochure touristique qu'ils ont de merveilleuses plages, un ciel bien bleu et une belle mer, mais ils communiquent, nous avons également un 112 qui fonctionne et qui répond dans votre langue. 5 langues, donc qui couvrent l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le français. Donc voilà, le multilinguisme n'est pas sous réglementation, mais certaines régions ont compris l'avantage et couvrent ce besoin. Bon, au niveau de la localisation, pour les postes fixes, on est plus ou moins en ordre partout en Europe. On a vu au niveau des mobiles, beaucoup d'efforts restent à fournir. Alors, il y a un groupe qui travaille sur une norme, je vous parlais de la voie de la protection civile, pour harmoniser un standard au niveau européen en termes de télécommunications. On a un ETSI, donc qui est le European Telecommunication System Institute, qui travaille sur l'élaboration de cette norme. J'espère, j'attends avec impatience depuis 2 ans, qu'ils vont produire un document qui mettra tout le monde d'accord, parce qu'il y a urgence. Bon, on a quelques problèmes d'accès dans quelques régions en Europe, et quelques problèmes pour les personnes handicapées. Alors, donc un Européen sur 5 connaît le 112 et appellerait le 112 en cas d'urgence dans un autre pays que le sien, mais en Europe. Alors, vous allez voir ici quelque chose qui est assez intéressant, c'est que vous avez donc cette moyenne de 20%, 19,2, si je veux être méchant, je vais dire 20. Et alors on voit tous les pays qui sont à droite, que remarque-t-on ? Qu'en fait, ces gens viennent des pays où le 112 a été adopté comme numéro national unique. Donc ces gens ont le réflexe 112, bien évidemment. Italie, vous avez 13%. Alors, l'objectif de notre association, d'abord, nous sommes une association qui regroupons les 3 secteurs concernés dans l'implémentation du 112. Les industries, les services d'urgence comme vous en faites partie, et l'utilisateur final, comme j'ai dit, au travers des associations de consommateurs. Donc notre but est de promouvoir la connaissance et l'utilisation efficace d'un 112 dans toute l'Europe en agissant comme plateforme de discussion. Donc nous croyons au droit fondamental de connaître le 112 parce qu'il peut simplement sauver une vie, que appelant le 112, on devrait obtenir l'aide appropriée, donc le service approprié, le plus vite possible, donc le temps total de réponse, et sur le lieu de l'urgence. Ça ne m'intéresse pas d'avoir... vous savez qu'à Bruxelles, il y a des bâtiments qui comptent 5000 employés. Si mon système, en tant que service d'urgence, repère la centraliste, la téléphoniste à l'entrée, ça va pas m'aider. Et alors, dans la mobilité européenne, nous croyons aux mêmes normes de protection, de sécurité, et de qualité dans toute l'Union européenne pour le citoyen, avec le droit au même traitement médical, peu importe où je me trouve. Parce que quand vous êtes hollandais ou suédois et que vous venez en vacances en Grèce ou en Italie et que vous n'avez pas droit si on ne sait pas traiter votre appel parce qu'on ne peut pas répondre dans votre langue et qu'on ne peut pas vous envoyer un secours, il y a quelque chose de très frustrant. Et par rapport à cela, une seule étude a été faite par rapport à la qualité des services 112 durant l'année 2003 au travers d'un programme européen financé par l'unité protection civile et pour laquelle il y avait deux projets. Un projet d'étude sur la qualité des services 112 pour le Portugal et un géré par l'Espagne pour l'Espagne, l'Italie et la Grèce avec le besoin, la condition d'avoir une méthodologie commune. Pour des raisons que je ne dirai pas, mais que vous savez tous, la deuxième a été annulée. Donc on n'aura pas les résultats pour l'Espagne, pour l'Italie et pour la Grèce. Et je suis très content parce que ils ont eu le courage de le faire au Portugal, et ils l'ont fait sachant qu'ils allaient trouver des cadavres dans les placards, donc des failles dans le système, ils savaient. Mais c'est ce qu'on appelle la préparation. Ces gens veulent connaître, localiser les problèmes pour pouvoir mieux les résoudre. Ils l'ont fait dans un but qui était l'Euro 2004, qui, vous êtes en Italie, grand amateur de football. Combien d'Italiens vont se rendre au Portugal? Alors, cette étude détermine que 20% des appels en français, 29% des appels en anglais ne sont tout simplement pas traités. Donc, on décroche, on ne parle pas la langue, on raccroche. Et nous n'avons jamais reçu de plainte pour le Portugal. Nous en avons pour l'Espagne, pour la Grèce et pour l'Italie. Je peux vous assurer que maintenant, pour l'Euro 2004 au Portugal, les opérateurs dans les centres 112 ayant été adoptés comme d'urgence unique au niveau du Portugal, je peux vous assurer que les opérateurs parleront l'anglais et le français et qu'ils vont couvrir ces diverses langues. Donc les moyens que nous avons comme plateforme de discussion sont relativement basiques et nous avons un site internet qui sera bientôt disponible en italien. Nous avons une newsletter. Si vous avez besoin de rencontrer des gens qui travaillent dans le même secteur que vous, qui sont passés par cette étape 112, mais il y a quelques années, qui ont rencontré les problèmes, qui les ont résolus et qui en ont tiré des expériences, vous pouvez profiter de la newsletter pour faire une annonce, pour demander, pour rencontrer. Donc on a ce qui nous permet d'identifier, de localiser, de reporter aux autorités compétentes une place qui s'appelle le Citizen Corner, qui est la place du citoyen, qui permet à vous et à moi, à ceux qui sont encore en vie, de venir témoigner sur leur expérience, bonne ou mauvaise, qu'ils ont dû affronter concernant le 112. On intervient auprès des autorités. Une plainte a été déposée contre 7 pays États membres début janvier auprès de la Commission européenne. Et nous intervenons auprès du médiateur européen depuis 3 semaines contre la Commission européenne pour mauvaise administration de la réglementation 112. Et nous avons le 1er du 12 de chaque année, depuis l'an dernier, le Congrès européen sur le 112 qui permet aux gens impliqués dans le 112, donc les industries, services d'urgence, autorités locales, régionales ou nationales et utilisateurs finaux, de se rencontrer sur les problématiques les plus urgentes dont ils veulent discuter. Et alors, nous lions la participation à ce congrès au membership, c'est-à-dire que je n'ai pas le temps ni l'argent pour organiser des assemblées nationales au niveau européen. Donc, on lie la participation du congrès au membership. Et donc, toute personne participant au congrès est membre et donc a droit à la parole et peut acter dans l'ordre du jour et dans le procès verbal du congrès. Donc, on a un projet qui s'appelle Emergency qui permet... au travers on a des nouveaux URL de sites web qui vont sortir avec la terminaison EU, donc on a .org, on a .com, on a .info, on a .biz, maintenant on va voir .eu. On a acheté l'adresse 112.112.eu, et au travers de cette plateforme, ce qu'on appelle les multiplicateurs nationaux, donc tous les gens qui ont intérêt à communiquer auprès de leurs citoyens ou auprès de leurs clients le 112 parce que ça constitue une valeur ajoutée, Moi, je serais content, je serais reconnaissant à Telecom Italia si, quand j'arrive à l'aéroport de Florence, je reçois un petit message me disant « Bienvenue en Italie, en cas d'urgence, composez le 112 ». C'est une valeur ajoutée pour ces gens. Ce le serait pour Hilton, ce le serait pour l'Office du tourisme de Florence, pour toute une série de gens qui traitent avec les acteurs. Et c'est un outil qui permet d'avoir au niveau européen une campagne harmonisée et qui a l'énorme avantage de ne coûter que très peu d'argent. Voilà, si vous avez des questions concernant le 112 plus précises, si vous voulez une requête, si vous avez une requête particulière, si vous voulez être mis en contact avec différents de nos membres, vous pouvez bien sûr me contacter à ces adresses. Je vous remercie.